Bonsoir, rentrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, extinction, rébellion, la lutte des places est-elle encore efficace? La semaine dernière, à Londres, à Montréal, à Bruxelles, Amsterdam, Berlin et Paris, le tout jeune groupe Extinction Rébellion organisait une semaine d'action pour pousser les gouvernements à agir plus vite et plus fort contre le réchauffement climatique. À Paris, ils ont bloqué la place du Châtelet, occupé la place du Palais Bourbon et un de leurs militants a même grimpé hier sur la pyramide du Louvre. Pour autant, le mouvement n'a peut-être pas eu la répercussion attendue par les initiateurs puisque mairie de Paris comme gouvernement ne l'ont pas condamné, conduisant des porte-paroles des gilets jaunes ou des mouvements plus violents à s'interroger sur les raisons de se laisser faire. Extinction Rébellion est un mouvement non violent et des discussions nombreuses ont eu lieu toute la semaine à l'intérieur du campement sur l'efficacité de ce mode d'action. Nous avons réuni ce soir des membres d'Extinction Rébellion. Ils sont deux, Anton et Edith, et deux philosophes qui étudient les contestations actuelles des autorités gouvernementales, que ce soit Fabrice Flippot, philosophe et spécialiste de l'écologie politique, ou encore Jean-Claude Monod, philosophe chercheur au CNRS et auteur de L'art de ne pas être trop gouverné, qui est sorti la semaine dernière au Seuil. Voilà, c'était un extrait sonore de la présence hier au parc de la Villette de ce groupe Extinction Rébellion où le mouvement organisait une journée bilan et perspective, après une semaine d'action. Bonsoir Jean-Claude Monod, merci d'être avec nous. Bonsoir Fabrice Flippot.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Edith et bonsoir à vous Anton d'être avec nous, tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, cette semaine d'action, elle a été diversement suivie, diversement critiquée. Est-ce qu'on peut expliquer d'abord comment fonctionnent ces semaines, justement, ces moments forts, puisqu'il y a eu un moment fort au printemps dernier, c'était en avril, un moment fort en octobre, au tout début de l'automne ou à la fin de l'été, et peut-être d'autres qui viendront ensuite. Edith, de quoi s'agit-il exactement, ces moments forts?
On a un fonctionnement en fait par cycle. Au terme des actions, en fait, on entre généralement dans un cycle de réflexion. On prend du recul, on fomente les suivantes, et l'apprentissage occupe une place essentielle dans notre mouvement.
Qu'est-ce que vous appelez l'apprentissage ?
Tirer les leçons de chacune de nos initiatives et grandir. En conscience, en outils, l'auto-formation.
Anton, ce mouvement est né donc l'année dernière à peu près à la même époque, c'était à l'automne 2018, c'est cela, ou en Angleterre au tout départ, et il s'est répandu progressivement dans d'autres pays, dont la France.
Oui, alors le mouvement vient d'un réseau d'action qui s'appelle Rising Up en Angleterre, qui a été formé en 2016, à l'intérieur de ce moment-là, donc qui était pour justement remettre en question les modes d'action, puisque on peut le juger en acte. Malheureusement, les contestations autour de l'écologie n'ont pas eu gain de cause pour le moment, puisqu'on continue d'accélérer vers le gouffre pour le moment, les trajectoires conçues au niveau scientifique, on nous le rappelle quand même de manière de plus en plus fréquente chaque année. Et donc ce mouvement a décidé de questionner ses pratiques, etc. Et au sein de ce réseau Rising Up est née à la base qui était une campagne qui s'appelle Extinction Rébellion et qui a très rapidement dépassé le réseau initial pour se déclarer donc quelques mois plus tard en Angleterre à fin octobre du coup 2018 et fait des appels au niveau international pour que d'autres des structures similaires se répliquent un peu partout dans plusieurs pays. Donc en France on s'est lancé on a commencé à travailler en novembre et on s'est déclaré en fin mars 2019 du coup officiellement.
Alors Edith, il y a une question que tout le monde se pose, c'est y a-t-il un corpus idéologique? Quels sont les textes sur lesquels on se fonde pour pouvoir se rassembler, discuter ensemble, bloquer des villes entières ou des extraits, des morceaux de villes entières? Et en particulier, est-ce qu'il y a des penseurs, des penseuses qui vous ont inspiré les unes et les autres, des penseurs de l'écologie politique par exemple?
Je pense qu'on s'inscrit dans un héritage éco-anarchiste, assez large en fait, mais on est aussi inspiré par les luttes sociales de manière générale. Bien sûr, il y a des figures majeures qui auxquelles on peut s'adosser, tels que Gandhi sur le postulat de non-violence, ou Sorrow sur la question de la désobéissance civile, ou encore Joanna Macy, qui est un peu moins connue ici en France, mais qui est à l'origine de ce que nous avons appelé la culture régénératrice. Pour autant, ce qui nous fédère, c'est d'abord un constat partagé sur la situation écologique, l'état de la biosphère aujourd'hui, sur l'impasse dans laquelle nous projette le modèle productiviste, et également donc il y a ces quatre revendications peut-être sur lesquelles Anton tu peux peut-être revenir. Voilà, mais on a aussi 10 principes auxquels on invite tous les nouveaux arrivants à
adhérer.
Voilà, à adhérer, effectivement.
Alors, vous évoquez Joanna Macy, eh bien, un extrait d'un entretien qu'elle avait accordé à Cécile de Kervas-Douet de France Culture il y a quelques temps.
Nous sommes tous influencés et déformés par l'hyper-individualisme. Et le vrai défi, c'est de réussir à influencer les politiques et les multinationales sans les prendre pour des ennemis. Parce que ce n'est pas une bataille de gentils contre les méchants. C'est la bataille de tout le monde ensemble.
Alors, Joanna Macy est une universitaire américaine qui doit avoir à peu près 90 ans aujourd'hui et qui est pionnière de l'éco-psychologie. Et elle est considérée, vous l'avez dit, comme une inspiratrice de ce mouvement Extinction Rebellion dans lequel vous êtes tous les deux, Edith et Anton. Anton, pour les auditeurs, pour qu'ils puissent comprendre un peu le corpus justement d'action et de pensée qui est le vôtre, les principes par exemple qui ont été évoqués à l'instant même par Edith.
Alors je ne vais pas tous les citer forcément à la suite, mais...
Ça ferait catalogue, oui.
Globalement, on essaie de travailler, de tendre à l'horizontalité dans le mouvement, on essaie de fonctionner avec... des principes d'autonomie et de décentralisation, donc on est un réseau non-violent, on fixe notre mission, et ça c'est assez important je pense sur ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on va s'ancrer sur des objectifs qui sont à la mesure de ce à quoi on fait face, et ensuite on va travailler sur des petites actions pour nous y mener, ce qui est relativement à l'inverse de ce qui était souvent fait dans les réseaux traditionnels d'action. Voilà, il y en a beaucoup d'autres.
Edith, brièvement, puis je vais donner la parole aux deux autres intervenants de cette discussion.
Oui, on disait tout à l'heure en fait qu'on favorise aussi la réflexion et l'apprentissage et qu'on ne tient pas de discours moralisateurs et culpabilisants.
Et donc, on vous reproche aussi de ne pas tenir ces discours culpabilisateurs et moralisants, en particulier vis-à-vis des gouvernements, les gouvernements, vous leur demandez de mettre en œuvre une politique, évidemment, qui va réduire le réchauffement climatique, mais des entreprises, Joanna Macy le disait, on ne pointe pas du doigt, de la police, et évidemment vous vous trouvez confronté à d'autres types de manifestations. Fabrice Philippot, bonsoir, vous êtes philosophe, vous suivez les mouvements sociaux et l'écologie politique, mais vous avez suivi aussi la question des gilets jaunes, et parmi les critiques, il y a justement cette idée de la non-violence d'un côté, et tout compte fait, on les laisse faire, ils s'installent place du Châtelet, et tout le monde dit que c'est bien, en particulier la mairie de Paris ou encore les autorités gouvernementales. Fabrice Philippot.
Le principe, j'ai pas suivi dans le détail, donc je voudrais pas quand même vous déformer, hein, surinterpréter l'action, mais disons d'une manière générale, la désobéissance civile va chercher la légitimité populaire. Si derrière il y a un soutien, je veux dire, c'est qu'il y a une partie, l'objectif est peut-être en partie atteint. La violence est, me semble-t-il, assez souvent la violence, ça dépend, il faut définir plus finement ce que violence veut dire, mais disons, pour rester à votre question de manière assez frontale, la violence des gilets jaunes a aussi largement été soutenue, et la violence des agriculteurs très régulièrement est aussi soutenue,
ou elle n'est pas condamnée.
Il y a des répertoires d'action, entre guillemets, comme disent les sociologues, qui sont inscrits dans le paysage, identifiés et compris comme étant une expression légitime.
Jean-Claude Monod, vous êtes philosophe, vous venez de publier L'art de ne pas être trop gouverné au seuil, vous vous inscrivez dans une lignée de pensée foucauldienne de Michel Foucault, et vous tentez, à partir de Michel Foucault, de réfléchir justement à cette question de la gouvernementalité des citoyens dans une société comme la nôtre, et de la capacité qu'ils ont à agir dans une société de plus en plus libérale, où la question économique est majeure, avec des gouvernements qui sont emprisonné d'une certaine façon dans ces logiques néolibérales, c'est ce que vous expliquez. Vous dites, bien, tout compte fait, il y a des mouvements justement qui naissent, et vous analysez en particulier ces mouvements des places dans votre dernier livre, L'art de ne pas être trop gouverné, Jean-Claude Monod.
Oui, je pense qu'en fait, depuis assez longtemps maintenant, ce serait difficile d'établir une chronologie très stricte, mais il y a effectivement un certain nombre de mouvements qui ont repris ce thème, disons, du « nous ne voulons pas être gouvernés ainsi nous, », nous voulons essayer d'autres formes d'interpellation ou d'action démocratique, mais avec cette difficulté qui, je pense, est assez patente ici, ce qui est qu'il s'agit d'interpeller à la fois des gouvernements et sans doute une organisation économique. Mmh. Et il y a peut-être une tension, alors c'est pas du tout pour tout de suite problématiser ou mettre en question, mais entre la mise en cause d'un système économique et le fait de dire que les multinationales ne sont pas les ennemis. Je pense qu'il y a, bon, je pense que c'était pour changer de répertoire un petit peu par rapport à un style de critique qui était assez traditionnel et peut-être centré sur l'économie d'un répertoire plus marxisant, disons. Donc on voit que ces mouvements des places essayent aussi d'éviter des formes de formation du collectif ou de délégation ou d'organisation hiérarchique qui ont marqué aussi l'histoire des
mouvements
certains
sociaux.
Mouvements. Je pense voilà qu'il y a une question de l'articuler. Et bon, le fait qu'ils soient assez bien reçus et que ce soit retourné comme une critique contre eux, je pense que ça traduit toujours cette interrogation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre en cause ce système économique sans mettre en cause assez directement, justement, mettons, certaines multinationales, etc. Donc,
Oui, et Edith ou Anton, sur ces questions, vous y avez évidemment réfléchi parce que vous passez beaucoup de temps à discuter, à imaginer, à recollecter vos propres pensées vis-à-vis de l'évolution de la société.
Ouais, je crois qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'on a dit. On ne tient pas de discours culpabilisant et moralisateur des individus. On pointe un système, mais les multinationales sont pas des individus. Donc évidemment qu'on cible des multinationales, qu'on cible les institutions, qu'on cible les États. Si on entre en rébellion, c'est pas contre les individus, c'est contre un système, et c'est les gouvernements, etc., et les institutions qui maintiennent ce système en place, dont les multinationales.
Fabrice Philippot.
Oui, après, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement qui émerge, on dit, oui, mais regardez, il s'oppose à des mouvements plus organisés. Mais il y a la phase de l'émergence, en fait, qu'il faut bien comprendre, qui part des individus. Vous allez peut-être vous structurer, peut-être pas, on verra, mais tous les mouvements, y compris les mouvements sociaux, les mouvements syndicalistes, au début étaient quand même très très éclatés, mm-hmm. avec un certain nombre de disons, d'organisations très 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 horizontales. Ça a mis beaucoup de temps à se structurer en fédération. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de résistance à la structuration, et certains ne sont même jamais structurés, notamment les anarchistes. Donc il y a ce temps je pense que ce qui est caractéristique, par contre, c'est qu'effectivement, ce ne soit plus les lieux de production. C'est le point de départ n'est plus les lieux de production, mais c'est aussi, on l'a vu dans le cas des Gilets jaunes, c'est aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire que aujourd'hui les entreprises n'ont plus de lieu physique, hein. C'est-à-dire que le patron, quand on va le voir, bah c'est un salarié comme plein d'autres dans une multinationale qui a pas de rive, hein, qui a pas de bord, qui a pas de frontières, et donc on va se rassembler dans l'endroit où on se rencontre, qui va être plus la place ou le rond-point ou plus que le lieu de production.
Alors je vous propose d'écouter justement quelqu'un qui a occupé les ronds-points. Il s'appelle Maxime Nicole.
C'est pareil, tu vois, quand les Gilets jaunes ont bloqué les ronds-points, tout le monde disait, oui, vous rendez compte, sur les plateaux de télé, partout, vous faites chier les Français, vous nous faites chier les Gilets jaunes à bloquer les ronds-points, à tout bloquer. Par contre, Extinction Rebellion, ils bloquent les rues de Paris dans les plus grandes avenues qui font circuler tout le monde dans Paname, ça font aborder le monstre, et t'entends pas à la télé, ils nous font chier à tout bloquer, ils peuvent pas les bloquer le dimanche, ils font chier. C'est pareil, ça choque pas ça. Eux ont le droit de bloquer, ça ne fait pas chier les Français. Et on vient pas dire, c'est qui, combien ils sont, c'est une minorité, ils nous cassent les couilles avec leur climat. C'est bizarre, on n'entend pas ça sur les plateaux. Ils sont pas stigmatisés. Là, on vient pas dire, ah ouais, c'est des bobos qui veulent tous qu'on bouffe des carottes. Non, Et puis en plus, il y a toujours des gens qui vont revenir en disant qu'est-ce que t'as contre la convergence, qu'est-ce que t'as contre ceci, qu'est-ce que t'as contre cela. J'ai rien contre la convergence, à partir du moment où elle est bénéfique pour un intérêt collectif. En l'occurrence, Extinction Rebellion, je les ai pas entendus parler de justice sociale, je les ai pas entendus parler de justice fiscale, je les ai pas entendus parler de la fin des privilèges de ceux qui nous dirigent, et je les ai pas entendus parler non plus de revoir la Constitution parce qu'elle nous met une grosse carotte et nous empêche de vivre dignement.
Voilà, donc on n'a pas entendu les gens d'Extinction Rebellion donc remettre en cause les privilèges de ceux qui nous dirigent, et en particulier donc ces questions qui sont liées à la justice sociale. Qu'est-ce que vous en pensez, Edith, de cette critique qui vous a été portée directement par les Gilets jaunes, enfin par un des leaders des Gilets jaunes, mais vous en aviez quelques-uns qui étaient venus vous voir aussi, j'imagine, sur le campement de Châtelet.
Ouais, tout à fait. Là, on se pose plein de questions, nous, en interne, sur faut-il utiliser de préférence la notion de convergence ou celle d'alliance. Ma position personnelle, pour le coup, c'est...
Je rappelle que vous ouais. ne parlez pas au nom du mouvement, vous êtes deux membres du mouvement.
Voilà, on n'est absolument pas porte-parole d'Extinction Rébellion et on s'inscrit dans la logique d'horizontalité dont on évoquait ensemble tout à l'heure. Mais moi, ma conviction profonde, c'est que tous les points d'entrée pour assiéger cette espèce de monstre productiviste et l'état de déliquescence démocratique dans lequel il me semble qu'on se trouve aujourd'hui dans pas mal de sociétés, de pas mal d'états-nations aujourd'hui, toutes les points d'entrée sont en un sens utiles. Et que oui, on s'interroge beaucoup à Extinction Rebellion sur la pertinence en fait d'associations. Voilà, on n'a pas forcément envie de le faire au détriment ou au sacrifice de nos valeurs non violentes, etc. Mais bon.
Fabrice, il faut.
Oui, trois remarques. La première, c'est que le système divise. Voilà, en de multiples fronts. Et quand on est
divisé, le système, vous voulez dire oui le
voilà productiviste, capitaliste, ouais, tout ça quoi.
D'accord.
Et il divise en un certain nombre de fronts, le front du travail, le front de l'écologie, et une fois qu'un front c'est une situation, le travail c'est plutôt sur le lieu de production, l'écologie c'est plutôt sur un autre front. Et c'est pas si évident que ça de faire des liens de l'un à l'autre et de parler d'une problématique, d'une situation dans une autre situation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que historiquement, on l'a encore vu en parlait tout à l'heure, les manifs gilets jaunes et les manifs disons climat, quoi, ont quand même disons globalement un profil sociologique assez différent, et c'est pas nouveau, hein. Néanmoins, ce qu'on observe aussi, c'est que autant à Paris la différence elle est quand même très très nette, c'est-à-dire qu'il y a deux cortèges et bon, on voit bien que c'est quand même assez différent, alors que on en parlait aussi tout à l'heure avant l'émission, et puis c'est des collègues en ont témoigné beaucoup aussi, en dehors de Paris il y a quand même des embryons de convergence qui sont assez fortes, tout simplement, moi je peux en témoigner parce que c'est aussi des choses que j'ai vues, tout simplement parce que une partie des gilets jaunes, ils sont dans la catastrophe, donc quelque part ils sont un peu familiarisés avec un monde qui se déglingue plus ou moins,
parce qu'ils sont dans un monde de la collapsologie de Paolo Servigne ou des penseurs,
oui voilà, ils sont déjà un peu là-dedans, et donc localement ça crée des points communs avec d'autres personnes qui se disent bah oui, ça c'est quelque chose qui va se déglinguer entre guillemets.
Jean-Claude Monod, vous qui êtes l'auteur de l'art de ne pas être trop gouverné.
Oui, non, mais moi je pense que cette question, pardon, d'une connexion entre un mouvement écologiste un peu radical et des mouvements qu'on a pu interpréter comme des mouvements quand même essentiellement dirigés vers la justice sociale, même si les Gilets jaunes sont un mouvement assez divers lui-même, je pense que c'est une question tout à fait importante. Et effectivement, on voit bien qu'il y a une façon assez nette dans un certain nombre d'organes de presse, etc., d'essayer de disqualifier le mouvement par sa sociologie, qui serait plus bobo, etc. Et donc d'opposer un peu, voilà, comme des choses antithétiques. Bon, alors, Maxime Nicole, je pense, est peut-être un peu victime de cette tendance à opposer et à chercher effectivement à éviter une mise en question qui, voilà, pour prendre tout son enjeu, à mon sens, doit vraiment tenir les deux bouts.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire articuler la question de la critique du productivisme, comme vous dites, à la question d'une mise en cause, voilà, d'un système économique, d'un système politique. Donc, c'est quelque chose qui a plusieurs entrées et dont il faut penser l'articulation. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu incantatoire, c'est la convergence des luttes, etc. On a l'impression d'entendre des choses qui, à chaque mouvement social, sont un peu un refrain. Mais je crois que dessous, effectivement, il y a une question très, très importante.
Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion! Extinction! Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
h 40 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat consacré aujourd'hui à Extinction Rebellion. La lutte des places est-elle encore efficace? Pour évoquer la semaine dernière, la semaine passée, donc de mouvements un peu partout dans le monde autour et initiés par cette nouvelle organisation. Anton, il y a des critiques qui viennent aussi, pas simplement des Gilets jaunes, mais d'une extrême gauche ou d'une gauche anarchiste qui vous a fortement critiqué la semaine dernière. Nantes Révolté disait que votre programme, c'était une certaine idée de l'enfer, disait-il, le programme que vous avez mis en œuvre, parce qu'ils n'étaient absolument pas d'accord, j'imagine, avec la question de la non-violence ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques qui viennent vraiment de la gauche de la gauche et peut-être d'un certain anarchisme qui a été présent à Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres endroits comme ceci?
Pour commencer, je dirais que c'est une des premières questions qui a été évoquée en interne quand on a commencé le mouvement. Et qui n'a de cesse d'être débattu. En fait, je crois que ce sont pas des questions qui trouvent un point final à un moment. Et on a de cesse de s'interroger, d'avancer, d'essayer de construire pour y répondre par de l'action pratique. Et je pense que c'est sur ça surtout qu'il faut qu'on se concentre. Moi, je milite quand même depuis pas mal d'années. J'ai pas attendu qu'il y ait Extinction Rébellion. Pour autant, ça fait très longtemps que je vois dans la gauche qui écrit beaucoup, on va dire. Voilà, beaucoup de textes qui s'articulent, mais
c'est quoi cette gauche qui écrit beaucoup? C'est une gauche de parole et vous êtes une gauche d'action ou
non?
C'est quoi?
Je ferai pas une opposition comme ça trop facile, mais je dirais que si on pouvait se retrouver autour d'action et faire vivre finalement ce qu'on aimerait voir, peut-être que ça nous aiderait à faire entre guillemets tomber ce système plus rapidement, pour simplement une des questions de survie aujourd'hui, plutôt que de s'opposer dans des idéologies finalement trop profondes. Et notre mouvement avec ce système d'auto-organisation et d'horizontalité permet l'expression multiple et variée des diverses opinions, et c'est ça qu'on aimerait faire entendre. S'il y a des choses qui manquent, en fait, les personnes ont juste le droit et la responsabilité finalement de venir les faire vivre en notre sein.
Oui, mais par exemple la question de la violence, vous êtes non-violent, le mouvement l'est, et donc à partir du moment où certains voudraient vous rejoindre et pratiquer la violence, ça serait compliqué, ou alors il faudrait trouver des moyens de moyenner autour de cette question-là. Fabrice Philippon.
Oui, juste là-dessus, il faut bien distinguer le conflit et la violence quand même, hein. C'est-à-dire que vous acceptez le conflit.
Oui.
Mais pas la violence. Donc après, ça ouvre un débat assez vaste.
Un conflit sur des objets, par exemple, mais pas sur des hommes ni des animaux, ça peut être considéré par certains comme de la violence aussi.
Il y a aussi cette dimension-là. Alors, il y a d'autres points de désaccord dans le milieu anarch. Il y a des composantes, disons, productivistes dans le milieu anarch. C'est-à-dire toute critique qui serait un peu trop, positive à l'égard de la nature, certains sont très, très farouchement opposés. Il faut le savoir.
Oui, Jean-Claude Monod.
Oui, alors est-ce que... Bon, moi je suis pas forcément un adepte absolu de l'horizontalité. Je pense qu'il y a un moment où il faut s'y affronter.
Vous êtes pour le gouvernement des hommes, d'une certaine façon,
la question,
du moment qu'il n'est pas trop gouvernement.
Je pense que la question des modes de gouvernement se pose de toute façon, et bon, l'anarchisme est une façon d'y répondre ou de ne pas y répondre, je ne sais pas. Mais il me semble qu'assez vite interviennent à peu près deux problèmes. C'est celui de la prise en main de l'action que l'on veut mener, qui ne peut pas être toujours renvoyée. Surtout si on considère que ces gouvernements sont incapables. Donc la question se posera de prendre en main des formes d'action qui, je pense, impliqueront une forme de gouvernementalité au sens large. Alors est-ce que cette gouvernementalité peut rester tout à fait horizontale, sans visage identifié, sans porte-parole permanent, sans quelqu'un qui se présente plus ou moins comme un messager ou un représentant dont la parole fait tout de même un peu autorité? Parce que je pense qu'il y a eu aussi des expériences un certain épuisement de mouvement, bon, par exemple la Nuit debout, où la délibération pour la délibération a fini par ne pas accoucher de grand-chose.
Malgré la présence d'une figure comme Frédéric Lordon, ou des figures qui ont...
Oui, mais qui récusait le fait d'être
qui ne voulait pas être
de fait une autorité, parce que celui qui initie le mouvement a une autorité sur le mouvement, je pense.
Edith.
Une nécessité au regard des quatre revendications que porte Extinction Rebellion, parmi lesquelles la reconnaissance de la gravité et de l'urgence absolue de faire face à la crise écologique dans laquelle on est aujourd'hui. De toute façon, on a pour une nécessité qui est donc de devenir un mouvement de masse. C'est quand même ça, on aspire à être rejoint le plus largement possible. Donc finalement, l'objet de cette polémique...
Mouvement de masse, ça veut dire organisation, ça veut dire structuration, ça veut dire aussi peut-être quelque chose d'un peu différent.
Tout à fait. Enfin, en l'occurrence, moi, je suis plutôt heureuse, à titre personnel, qu'on soit objet de cette polémique-là, parce que ce clivage d'être à la fois débordé par notre gauche et par notre droite, où voilà, on passe pour les uns pour
Des suppôts du gouvernement, ça c'est du côté des gilets jaunes ou de certains d'entre eux, ou au contraire des trop gentils qui ne mettent pas en œuvre effectivement la politique qu'il faudrait mettre en œuvre pour faire changer véritablement les choses.
Et donc finalement dans ce clivage, moi il me semble qu'on devient un champ, que XR est un champ de possibles politiques.
XR c'est donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est souvent les deux initiales qui permettent de connaître Extinction Rebellion et qui font partie du sigle de Extinction Rebellion. Fabrice Fippot.
Oui, alors deux remarques. Hein. D'abord, je pense que vous n'avez pas encore l'ambition de remplacer le gouvernement. Pour l'instant, c'est l'influence sur les institutions. C'est pas vraiment remplacer.
Tout de même.
C'est pas un programme de.
C'est un mouvement d'interpellation non plus. Donc.
Non, mais on a quand même l'ambition de. On a vraiment. On veut mettre en place des assemblées citoyennes. On s'y adonne.
Mais qui
remplace.
Qui remplace toute. Enfin, l'organisation à grande échelle d'un État. Je crois pas que ça en soit là au niveau de la réflexion. Après, juste pour la deuxième idée, c'était l'organisation de masse, mais de masse intelligente. Et il y a
gentil pour les autres.
Il y a oui, parce qu'il y a une masse fasciste aussi. Il y a des masses stupides, hein, masse et foule, quoi, hein, ou foule. Donc, il y a des conditions pour que la foule soit intelligente. Et ce qu'ils sont en train, une partie de leur organisation consiste à mettre en place les conditions pour que la foule soit pas stupide. Et la foule peut être stupide.
Oui, Anton, à propos de la question de la gouvernementalité, de la représentation ou de l'horizontalité d'une future organisation comme la vôtre.
Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si on peut se baser sur les faits, les gouvernements actuels et les institutions ont prouvé leur échec et à répondre aux questions auxquelles on fait face, ont prouvé leur échec à protéger finalement les personnes. Et donc c'est pour ça que des citoyens et des citoyennes de partout dans le monde, je rappelle qu'on est bientôt présent dans plus de 70 pays après quasiment moins d'un an, c'est pour ça que des gens se lèvent et entrent en résistance et notre revendication, donc la troisième au niveau international, si en France on les a divisés en quatre, mais peu importe, est là pour réparer la démocratie et créer de nouvelles manières de répondre à ces questions, puisque nous n'avons plus confiance fondamentalement dans les institutions qui ont prouvé cet échec-là.
Mais par exemple, dans le livre de Jean-Claude Monod sur l'art de ne pas être trop gouverné, il cite Tony Negri, évidemment, et Michael Hart, qui tous les deux disent que dans Assembly, comme on dit d'ailleurs, je ne sais pas, je parle mal anglais, donc voilà. Enfin, bon, toujours est-il que dans Assemblée, je vais le dire en français, disent qu'il y a certes une richesse des luttes à lutter comme se mettent en place des assemblées citoyennes un peu partout, mais qu'il y a une pauvreté de l'organisation. Est-ce que vous êtes consciente, par exemple, et dites que cette question de la pauvreté de l'organisation peut freiner à un moment cette adhésion progressive que vous sentez de gens qui vous rejoignent.
On évoquait aussi ça un peu plus tôt, là, avant l'émission, sur le fait qu'il y a beaucoup de néo-militants qui rejoignent le mouvement et que ça impose aussi, quelque part, je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux, en tout cas, se saisissent de ok, ben là, j'ai besoin de me former sur l'histoire des luttes, j'ai besoin de me relier à tel ou tel héritage. Il y a un désir exprimé à une échelle incroyable.
Un appétit de savoir, de connaissance, de compréhension de l'histoire des mouvements, par exemple.
De grandir politiquement, en fait. Ça suffit pas de prétendre reprendre le pouvoir. Il faut aussi, il faut qu'on puisse habiter. Il y a vraiment une exigence intellectuelle aussi qui est, à mon avis, en train d'émerger au sein d'Extinction.
Ça veut dire que, par exemple, à Châtelet, vous organisiez des rencontres, des discussions. Il y avait une bibliothèque, je sais, mais la bibliothèque peut être là juste comme un symbole. Elle n'est pas là forcément pour pouvoir apprendre.
En l'occurrence, Extinction Rebellion est aussi très... on a énormément de scientifiques, de sociologues, de philosophes, que ce soit les sciences humaines, toutes les... les champs scientifiques sont représentés au sein d'XR. Ça, c'est important de le dire aussi, que c'est aussi sous leur influence qu'est né le mouvement. Et en France, on ne fait évidemment pas exception.
Jean-Claude Monod.
Oui, non, ça, je trouve que c'est, ce qui est intéressant, c'est cette dimension un peu de, d'auto-apprentissage, un peu expérimental du mouvement qui est vraiment mise en avant. Ce qui, évidemment, rompt avec des formes assez dogmatiques de mouvements, d'organisations, et y compris d'organisations orientées plutôt vers la prise du pouvoir direct ou du pouvoir d'État. Là, il y a cette idée de quelque chose qui s'instruit de son propre, de sa propre expérience. Ça rappelle d'ailleurs un peu les théories américaines de la démocratie, de, comme Dewey, qui disait que voilà, le public s'auto-instruit.
Il y a quand même voilà. Sorrow derrière.
Il y a Sorrow derrière, voilà. Mais bon, Sorrow, c'est évidemment une action dirigée contre, par exemple, une mesure, la guerre des États-Unis contre le Mexique ou contre éventuellement une structure qui était l'esclavage. Mais ici, il y a quelque chose qui, je pense, implique une transformation assez globale. Et il me semble qu'il y a un moment où, je pense que la question de la forme de l'organisation sera amenée à bouger, mais et impliquera, disons, une élaboration des médiations, notamment, et une façon un peu d'assumer peut-être des propositions un peu plus nettes, un peu plus, disons, aussi dont on peut
politique.
Discuter, un peu plus politique. Parce que le risque de ces nouveaux mouvements très horizontaux, c'est une espèce de rejet du politique qui est un peu assimilé au pouvoir, à la corruption, etc. Et il y a un moment où le politique doit aussi, on est partie prenante du politique, donc on n'est pas tout à fait en dehors du politique.
Anton et puis Fabrice Philpot, Anton sur ces questions.
Je crois pas qu'on rejette le politique du tout. Je pense qu'on a un mouvement très politique. Par contre, on a un mouvement apartisan. C'est intéressant de le noter face aux menaces auxquelles on fait face.
Mais est-ce qu'on peut rester apartisan longtemps sans trouver d'alliés à gauche, à droite, enfin dans des endroits où il y a d'autres organisations ou d'autres types d'organisations qui sont moins horizontales que vous?
Trouver des alliés, ça se fait, et c'est en train de se construire petit à petit dans tous les pays, au niveau local et de manière assez décentralisée. Puisque on a commencé à allier des liens avec le monde paysan, avec plein d'organisations diverses et variées au niveau international. Après, on a un mouvement qui n'a pas vocation en tant que tel à durer. On a un mouvement qui a vocation...
biodégradable.
On a un mouvement biodégradable, on peut le dire comme ça, mais on a un mouvement qui a vocation à... c'est une réponse qui se construit par les citoyens et les citoyennes, mais on ne veut pas prendre le pouvoir à la place d'eux, on veut rendre le pouvoir pour gérer ces questions en garantissant qu'on fixe les objectifs qui sont nécessaires simplement pour la survie.
Mais plus vous aurez de succès, plus vous aurez d'ennemis.
Évidemment.
Dans la politique, on se fait des ennemis. C'est quand même ça. Il n'y a pas de politique sans ennemis.
Fabrice Philpot.
J'hésite un petit peu au sens où c'est des choses qui, effectivement, les mouvements biodégradables, déjà les verts dans les années 70, c'est bon, mais et en même temps, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que j'entends, et je pense que c'est vraiment important de l'entendre, et c'est pour ça que moi, l'auteur qui me vient, c'est plutôt Serge Moscovici. Mm-hmm. C'est le côté apprenant, c'est le côté créatif. On n'est plus dans les années 70, c'est plus la même situation. Et alors, c'est vrai que les configurations sociales font que peut-être le jeu, il y a certains aspects qui ressemblent. Puis il y a un aspect très important dans l'écologie politique aussi, c'est que on est en train de parler pas simplement de se réapproprier le système comme ça a été le cas d'une partie du mouvement ouvrier ou des grands partis de gauche, quoi, on va dire, hein, mais on est en train de parler d'une transformation en profondeur du système qui exclut pas un effondrement partiel du système. Donc depuis longtemps, il y a cette idée quand même dans l'écologie qu'il faut se réorganiser en bas. C'est le fameux agir local, penser global. Quoi. Mais il y a un enjeu physique à ça, c'est-à-dire que plus on agit haut, finalement, plus on est dedans, plus on est dans le système et moins on le change, d'une certaine manière.
Est-ce qu'il y aura une phase 3, j'imagine, puisqu'on dit qu'il y a eu déjà deux phases qui se sont déroulées, l'une en avril, l'autre en octobre, si j'ai bien compris, d'Extinction Rébellion. Cette phase 3, vous la préparez. Les critiques qui vous ont été faites, elles ont été faites en interne aussi, parce que ça ne manque pas de critiques à l'intérieur de l'Extinction Rébellion sur le campement de Châtelet ou hier du côté de la Villette. Tout le monde n'avait pas été d'accord sur l'efficacité de ce que vous avez mené, Edith.
Bien sûr qu'on est travaillé par différentes tendances, idéologies aussi. Bien sûr qu'on est travaillé, mais en fait, il y a un pilier à XR qui est ce qu'on appelle la culture régénératrice. Alors,
voilà.
Ouais, tout à fait. C'est pas simple de le faire parce qu'on est ici dans un terroir culturel qui est quand même très rationaliste en France, et cette culture régénératrice, elle trouve en fait sa genèse plutôt en terre anglo-saxonne. Mais l'idée, c'est d'encourager une culture de soutien et de respect entre activistes. C'est de veiller à ouvrir et à animer des espaces, des temps où on se ressource, où on valorise les uns et les autres dans notre diversité, aussi où l'on prend soin. C'est tout ce qui s'appelle la culture du care, prendre soin de soi d'abord et puis de son ali d'à côté, de sa communauté avec des guillemets, de sa société et de sa planète. C'est aussi l'idée, c'est de tenir. C'est paradoxe en fait, c'est que notre mouvement n'a pas pour vocation de durer, mais la lutte, elle, là on est quand même dans un temps de marathon et qu'on ne peut pas être, des têtes brûlées en désobéissance civile, ça brûle.
Antoine. Donc, Anton.
Je dirais aussi que c'est une très très bonne chose qu'on soit traversé par différents courants et qu'ils puissent s'exprimer. On n'a pas vocation à réduire et à annihiler le conflit, bien au contraire. Mmh. On a vocation à le rendre visible pour en discuter. Et c'est ces discussions-là, c'est-à-dire qu'on accepte quasiment la première fois, en tout cas dans moi, tous les mouvements dans lesquels j'ai pu m'inscrire, on accepte pour la première fois des désaccords et de prendre le temps d'en discuter parce qu'on est face à quelque chose qui fait qu'on peut pas faire autrement, en fait. C'est simplement ça, aujourd'hui, je crois.
Ça n'est pas qu'un mouvement de centre-ville, en l'occurrence, Edith, parce qu'on on le pense comme tel. Quand on le voit comme ça, quand on va du côté de Châtelet la semaine dernière, on avait l'impression que c'était un mouvement plutôt, effectivement, de CSP+, ou de futur CSP+.
Oui, si je veux permettre de vous poser une question, du coup, parce que vous connaissez évidemment beaucoup mieux que moi, mais un des travers, justement, de Nuit Debout, c'était d'avoir des gens qui sont très très forts à l'oral. Et en fait, il y a une bonne partie de la population qui c'est pas forcément la même modalité de débat, on va dire. Et ça peut être assez excluant, en fait.
Oui, mais franchement, en fait, sans dogmatisme, je crois, je le dis avec toute l'honnêteté que ça requiert, c'est que, en fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut être en désaccord les uns avec les autres, mais que la possibilité de mener un dialogue constructif, elle s'ouvre en tout cas dans des temps parfois différés, hein, mais parfois il y a de l'affrontement verbalement, et puis on n'est pas d'accord toujours sur les méthodes, mais en tout cas il me semble qu'on a cet horizon qui est ouvert en fait à co-construire. On est tout le temps dans la co-création en fait, hein, ça.
Oui, mais ça, effectivement, il faut trouver aussi d'autres alliés qui sont peut-être de milieux sociaux différents des vôtres, qui ne sont pas présents au Châtelet. La masse, par exemple, elle n'est pas forcément présente au Châtelet la semaine dernière. Antoine, brièvement, pour terminer.
C'est facile de dire ce qu'il faut faire. Hein.
les temps de rassemblement qui sont les temps d'avril et d'octobre, pour le moment, comme ça, c'est en train de se structurer, mais ça peut changer, comme on le disait tout à l'heure, on a une structure apprenante, vise les capitales principalement, pour maximiser les perturbations économiques et les institutions. Par contre, tout le reste du temps, il y a des dizaines et des dizaines d'actions qui sont menées en local. Je rappelle qu'en quelques mois, on est bientôt à 70 groupes locaux en France, qui sont parfois perdus dans les campagnes. Et il y a plein d'actions qui se mènent, du coup, sur des luttes qui sont territoriales, ancrées avec les gens qui ont besoin de ces espaces d'expression et de ces espaces d'action. Et ça, c'est vraiment ça transforme la manière qu'on a de lutter, de se réunir seulement à un moment dans les capitales. On a vraiment cette complémentarité entre les deux qui est en train d'émerger.
Merci beaucoup. Merci à Fabrice Flipeau d'être venu discuter avec vous. Merci à vous, Jean-Claude Monod, qui venait de rédiger L'art de ne pas être trop gouverné aux éditions du Seuil. Et merci à vous, Edith et Anton, d'être venu nous expliquer ce qu'était Extinction Rébellion, quels étaient ses buts et comment vous aviez agi jusqu'à maintenant en attendant les prochaines actions. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Louise André, à la vidéo aujourd'hui Jordan Fuentes, à la technique Jean-Frédéric et Marie-Claire Oumabadi, et à la réalisation Émilie Vallat.